Bonjour, mes frères. Je suis toujours ravi de vous voir tous. J'ai grandi en regardant Monsieur Rogers dans l'émission Monsieur Rogers' Neighborhood, qui était formidable, surtout pour un jeune garçon. Je regardais Monsieur Rogers et j'y repense aujourd'hui, peut-être parce que j'ai grandi et que je l'apprécie davantage avec le recul. C'était un homme très gentil, très aimable, et il était toujours ainsi dans l'émission. Au fil des ans, je crois qu'ils ont fini par faire un film sur lui, et les gens se sont intéressés à sa vie, et il s'avère qu'il était pareil en coulisses, pas seulement devant les caméras, ce qui arrive parfois. Vous savez, les gens devant la caméra sont d'une certaine manière en coulisses, ils sont très différents. Mais Monsieur Rogers était tout aussi gentil en coulisses qu'il l'était devant la caméra, et il était connu pour beaucoup de choses très positives, mais surtout pour sa compassion. Il y a eu un cas où il a invité un petit garçon paraplégique dans son émission, l'a emmené dans les coulisses et a vraiment fait en sorte que ce jeune garçon se sente très, très spécial. C'était un geste très compatissant de sa part envers ce jeune garçon. Une autre personne qui me vient à l'esprit, c'est la princesse Diana. Vous vous souvenez probablement d'elle, elle est tragiquement décédée dans un accident de voiture, mais elle était également connue pour sa compassion, sa royauté, sa grande beauté, elle était considérée comme une très belle femme, mais elle était surtout connue pour sa compassion. Il y avait des photos, peut-être même des enregistrements, d'elle rendant visite à des patients atteints du sida et les serrant dans ses bras, à une époque où le sida était une maladie très effrayante. Les gens ne voulaient même pas se trouver dans la même pièce que les personnes atteintes de cette maladie, et elle est allée jusqu'à serrer dans ses bras et embrasser des personnes atteintes de cette maladie, un geste très compatissant. Bien sûr, une autre personne très célèbre, à laquelle vous pensez peut-être en matière de compassion, l'une des personnes les plus célèbres de toute l'histoire, est Mère Teresa, qui rendait visite aux pauvres de Calcutta et prenait soin d'eux. Elle a consacré sa vie à aider les autres et à faire preuve de compassion. Je vous parle de ces trois personnes, mes frères, parce qu'elles soulèvent une question que je peux vous poser à tous. Nous pensons aux actes de Monsieur Rogers, Fred Rogers, de la princesse Diana, de Mère Teresa, à ses actes de gentillesse et de compassion. La question que je vous pose à chacun d'entre vous est la suivante, leurs actions ont-elles été vaines? Si vous y réfléchissez, ils n'étaient pas appelés à cette époque, ils n'étaient pas dans l'Église de Dieu, ils ne faisaient pas nécessairement ces choses pour l'Église et guidés par l'Esprit de Dieu en eux. Leurs actes ont-ils été vains? Leurs efforts pour essayer de réparer un monde brisé et mourant ont-ils été inutiles? Eh bien, je dirais, demandez au petit garçon qui a été invité à l'émission ou à ses patients atteints du sida. Comment se sont-ils sentis? Ont-ils eu l'impression que la princesse Diana les embrassait et les acceptait? Ont-ils eu l'impression que ces actions étaient vaines? Et les enfants de Calcutta et les pauvres de Calcutta qui vivent dans les bidonvilles, ont-ils considéré que ces actes étaient vains? Mes frères, en fin de compte, c'est bien sûr Dieu qui juge leurs efforts et leurs actions, mais personnellement, je ne me sens pas à l'aise de dire que ce qu'ils ont fait était vain, que ces efforts étaient inutiles. Je comprends qu'ils ne travaillent pas avec Dieu en ce moment, mais je ne me sens pas à l'aise de dire que ce qu'ils ont fait était vain. Cette idée de compassion est bien sûr un sujet très vaste, qui préoccupe les gens, surtout à cette période de l'année. Nous approchons de la fin de l'année, nous sommes en décembre, la période des fêtes, comme on l'appelle souvent, et c'est le moment de l'année où les associations caritatives mènent de grandes campagnes, où les banques alimentaires collectent des dons, où les refuges demandent de l'aide, où les familles font du bénévolat. Les gens sont beaucoup plus généreux à cette période de l'année, tant en termes de temps que d'argent. En ce qui concerne l'argent, c'est peut-être parce que c'est la fin de l'année et qu'il y a des déductions fiscales, bien sûr, et qu'il y a donc un avantage pour les personnes qui font des dons et font preuve de générosité, mais cela aide beaucoup de gens. Et je crois sincèrement que beaucoup ont un désir authentique d'aider. Le monde, à sa manière, devient beaucoup plus sensible à cette période de l'année. Il y a une volonté beaucoup plus grande d'aider les gens, et comme je l'ai dit plus tôt, en ce qui concerne les personnes que j'ai mentionnées et ce qu'elles ont fait, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire que ce que le monde fait pour aider les autres est inutile. Je ne me sens pas à l'aise de le faire. Mes frères, que devons-nous penser de ces actes de bonté manifestés par le monde? Que devons-nous en penser? Une question plus importante encore est peut-être, que pense Dieu de ces actes de bonté? Quelle est sa position à ce sujet? Que pense-t-il de cela? Dieu veut-il que nous, en tant qu'individus, aidions ceux qui sont en dehors de l'Église? Que nous fassions preuve de compassion envers les personnes qui ne sont pas converties, et Dieu n'intervient-il pas à ce sujet pour le moment? Dieu veut-il que nous, en tant qu'individus ou même en tant qu'organisation, en tant qu'Église, son Église, nous impliquions dans l'aide à ces personnes? Jusqu'où devons-nous aller pour aider ceux qui ne sont pas membres de l'Église de Dieu? Ou bien, jusqu'où devons-nous aller pour aider ceux qui sont dans l'Église, les individus qui sont dans l'Église? Jusqu'où devons-nous aller pour les aider, leur montrer de la compassion? Dieu et Christ font-ils preuve de compassion? Vous pensez probablement que oui, mais la question demeure néanmoins, Dieu et Christ font-ils preuve de compassion? Si oui, pourquoi? Quel est le rapport entre la compassion et le péché ou le royaume de Dieu? Ce sont là des questions très importantes, mes frères, sur un sujet très important. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à ces questions et à bien d'autres, et aborder le sujet de la compassion. Nous allons examiner ce qu'elle signifie, comment elle reflète la pensée de Dieu, et jusqu'où, d'un point de vue pratique, devons-nous aller pour aider les individus à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église de Dieu? Le New Oxford American Dictionary définit la compassion comme une pitié et une préoccupation sympathique pour les souffrances ou les malheurs d'autrui. Je vais le répéter. La compassion est une pitié et une préoccupation sympathique pour les souffrances ou les malheurs des autres. Le mot-clé dans cette définition est souffrance. C'est une distinction très importante. La compassion, si vous réfléchissez à la composition du mot, compassion signifie souffrir ensemble. Vous avez tous entendu parler de la passion du Christ, n'est-ce pas? Eh bien, la passion, c'est la souffrance. C'est une grande souffrance. Et si vous pensez au début du mot, comme, compassion. Comme signifie ensemble, comme dans communauté. Pensez à une communauté. La compassion signifie donc souffrir ensemble. C'est très intéressant quand on y réfléchit. La compassion est donc beaucoup plus profonde que le simple fait d'éprouver de la pitié pour une personne. En fait, elle est franchement beaucoup plus profonde que cela. Elle commence peut-être par de la pitié pour une personne, mais elle ne s'arrête pas là. Ouvrez votre Bible à Matthieu, chapitre 15. Matthieu 15. La Bible explique encore mieux ce qu'est souffrir ensemble. Matthieu 15, verset 29. Matthieu 15, verset 29. Jésus quitta cet endroit et s'approcha de la mer de Galilée. Il monta sur une montagne et s'assit là. De grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres, et les déposèrent aux pieds de Jésus. Et il les guérit. Nous venons donc de lire l'histoire de personnes boiteuses, aveugles, muettes, c'est-à-dire incapables d'entendre ou de parler, estropiés et bien d'autres encore. Ces personnes souffraient. Et qu'a fait Christ? Il les a guéris. Verset 31. Et la foule était émerveillée en voyant les muets parler, les estropiés marcher, les aveugles voir et les boiteux marcher. Ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai compassion de cette foule, car cela fait déjà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jeanne, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Avant d'approfondir cette question, examinons le mot « compassion » que vous avez vu ici. Christ a dit, « J'ai compassion de ces gens. » C'est un mot grec. C'est un mot difficile. Il est difficile à prononcer. Je ne m'attarde pas toujours sur le grec et l'hébreu, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est important. Le mot utilisé ici pour compassion est splagchnizomé. Splagchnizomé. C'est un mot qui vient du mot rat. C'est pourquoi j'ai donné le mot grec rat, ou intestin. Vous avez tous entendu parler des entrailles de la miséricorde, n'est-ce pas? Les entrailles de la miséricorde. Dans ce cas, Christ a éprouvé de la pitié pour ces gens au plus profond de lui-même. Au plus profond de lui-même, il a éprouvé de la pitié pour ces personnes. Ce n'était donc pas seulement une sympathie superficielle. Il éprouvait un sentiment profond, très profond, de sympathie et de pitié pour ces gens. Il est intéressant de noter que le récit poursuit en parlant de la faim. Les gens le suivaient depuis 3 jours. Je suis sûr qu'elle ressentait également une douleur intérieure. Mais Christ était compatissante envers ces gens. Elles étaient avec lui depuis 3 jours et elles avaient besoin de manger. Et s'il n'intervenait pas, beaucoup d'entre elles deviendraient incapables de fonctionner, voire mourraient. Verset 33, ses disciples lui dirent, « Où trouverons-nous dans ce désert assez de pain pour rassasier cette grande foule ?»« Christ, nous n'avons pas assez de nourriture pour nourrir ces gens. » Et Jésus leur dit, « Combien de pain avez-vous ?» Et ils répondirent, « 7, et quelques petits poissons. » Et il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Il nourrit donc les gens avec ses restes. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et il ramassa les morceaux qui restaient, 7 paniers pleins. C'est tout simplement un miracle extraordinaire. Ceux qui avaient mangé étaient 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Christ ne s'est pas contenté d'éprouver de la compassion pour ces gens. Je continue à lire, car il n'a pas seulement ressenti cette douleur au plus profond de son être, il a agi. Il a pris des mesures. Il les a nourris. Il a nourri les gens. De toute évidence, j'ai répondu à l'une de mes questions, qui était, Christ éprouve-t-il de la compassion pour les gens, et Dieu éprouve-t-il de la compassion pour les gens? Et bien sûr que oui. Nous avons vu un exemple avec Christ. Qu'en est-il du Père? Passons aux Lamentations. Lamentations, chapitre 3. Lamentations, chapitre 3. Le Père éprouve-t-il également de la compassion envers son peuple ou envers les gens en général? Lamentations, chapitre 3, verset 22. Lamentations, chapitre 3, verset 22. C'est par les miséricordes de l'Éternel, notez bien ce mot, miséricorde, que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Donc, le Père est également rempli de compassion. Elle se renouvelle chaque matin. Elle est donc fraîche. Elle ne s'altère pas. Elle se renouvelle continuellement. Le verset dit que sa compassion ne faiblit jamais. Et vous remarquez ici que la compassion est différente de la miséricorde. Elles sont liées, mais elles sont différentes. Nous avons bien sûr entendu parler de la miséricorde pendant la fête. La miséricorde, c'est la bonté. Mais la compassion est liée à l'utérus. Quand on creuse dans l'hébreu de ce mot, on voit qu'il est lié à l'utérus. Comme une mère chérit son fœtus. Pensez donc à une mère avec un fœtus dans son ventre. Une fois encore, au plus profond d'elle-même, le Père, au plus profond de lui-même, éprouve de l'amour pour les êtres humains. Le Père éprouve une profonde pour ses enfants, et il la ressent en lui-même. Il nous chérit comme il prend soin de nous. Il a pitié de nous. La pitié est un autre mot pour le désigner. Passons au psaume 103. Psaume 103. La pitié est un autre mot pour compassion. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. Car il connaît notre nature. Il se souvient que nous sommes poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, ainsi il fleurit. Car le vent passe dessus, et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Le Père en Christ sait, mes frères, ils savent que nous sommes fragiles. Nous sommes comme de la poussière. Finalement, nous mourrons. Le vent souffle, et nous disparaissons. Nous ne sommes plus. Ce qui différencie la compassion de l'empathie ou de la simple pitié, c'est que la compassion conduit toujours à l'action, ou à l'atténuation de la souffrance. C'est là la grande différence. Lorsque nous souffrons ensemble, lorsque nous éprouvons de la compassion, cela conduit à atténuer ou à tenter d'atténuer la souffrance. Christ n'a pas seulement eu pitié du lépreux lorsqu'il l'a guéri dans Marc 1. Il n'a pas seulement eu pitié de lui. Il l'a vu. Il était certainement pitoyable à voir, mais il a continué à le guérir. Il a soulagé sa souffrance. Passons à Luc 7, un autre exemple. Christ a soulagé la souffrance. Parlons du lépreux, mais lisons ici un passage sur une résurrection. Luc 7, verset 13. Luc 7, verset 13. Nous commencerons au verset 12. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort, le fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une grande foule de la ville. Le Seigneur, la voyant, fut pris de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Quel acte de compassion extraordinaire! Cette femme souffrait. Sa famille souffrait. Christ a soulagé leur souffrance en ressuscitant le jeune homme. Voici donc un résumé. La véritable compassion n'est pas seulement un sentiment profond de souffrance pour quelqu'un, elle implique également d'alléger cette souffrance ou d'essayer de l'alléger. C'est la plus grande différence entre la sympathie et la compassion. C'est une émotion suivie d'une action. Le monde fait parfois preuve de compassion, et je crois que c'est sincère. Les gens tentent sincèrement d'alléger la souffrance des autres, ceux qui ont faim, ceux qui ont besoin d'un abri, ceux qui ont des besoins. Le monde fait parfois preuve de compassion, mais Dieu fait toujours preuve de compassion. Dieu fait toujours preuve de compassion. Bien sûr, c'est Dieu. Mais Dieu fait toujours preuve de compassion. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que peuple de Dieu? Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Comment pouvons-nous faire preuve de la compassion que Dieu attend de nous? Rappelez-vous, Il fait toujours ce qu'il faut. Comment pouvons-nous faire preuve de la compassion que Dieu attend de nous? Une compassion divine. Il existe une compassion mondaine, que je ne dénigre pas, elle est très bien. Mais ce n'est pas la compassion divine. C'est très différent. Alors, comment pouvons-nous manifester la compassion que Dieu attend de nous? Eh bien, cela commence en grande partie par ce que j'appelle les causes profondes. Les causes profondes. Comme je l'ai dit, la compassion est liée à la souffrance. C'est une composante très importante de la compassion. Prenons donc un peu de recul. Pourquoi les gens souffrent-ils en premier lieu? Pourquoi les gens souffrent-ils? Pourquoi y a-t-il des catastrophes, des maladies, des trahisons, des familles brisées, la faim, la guerre, la mort, toutes ces choses qui mènent à la souffrance? Pourquoi les gens souffrent-ils en premier lieu? Pourquoi, malgré tous les efforts déployés par les hommes pour intervenir, pour résoudre ces problèmes très réels, ces problèmes très concrets, en investissant des millions, voire des milliards de dollars, et tant de temps, d'efforts et de ressources pour tenter de résoudre ces problèmes, pourquoi, malgré tous les efforts de l'humanité, ne parvenons-nous pas à y arriver? L'humanité ne peut pas y remédier. Pourquoi le monde est-il tel qu'il est? Revenons à la question, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Eh bien, mes frères, nous connaissons la réponse à la question de savoir pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. Cela s'appelle le péché. Le péché est la raison pour laquelle l'humanité souffre. Les gens souffrent à cause du péché. Qu'est-ce que le péché? Ouvrez votre Bible au chapitre 3 de la première épître de Jean. Qu'est-ce que le péché? Un verset classique, très clair. Qu'est-ce que le péché? Première épître de Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. C'est très clair. La souffrance est donc entrée dans le monde à cause du péché. Genèse, chapitre 3. Nous allons nous arrêter au verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. C'est après qu'Adam et Ève aient enfreint la loi, ils ont péché dans le jardin. Genèse 3. Reprenons au verset 16. Genèse 3, 16. Et à la femme, Dieu parle ici, il dit, « J'augmenterai considérablement ta douleur, ta souffrance et ta conception. Dans la douleur, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. » Et Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. » Verset 19. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le péché a conduit Adam et Ève à la souffrance, et finalement toute l'humanité. Romains 6. Pourquoi le monde souffre-t-il? D'où vient la souffrance? Quel est son but? Romains chapitre 6, verset 23, un autre verset classique, il est probablement marqué dans votre Bible. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le marquer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, mes frères, le paiement, la compensation, la rétribution pour avoir enfreint la loi de Dieu, c'est la mort. Et comme nous l'avons vu dans le récit du jeune homme qui a été ressuscité, la mort est liée à la souffrance. C'est là que la compassion du monde diffère de la compassion divine. De la compassion manifestée par Dieu en Christ. De la compassion, mes frères, à laquelle nous devrions finalement aspirer. C'est là que la compassion dans le monde est différente. Le monde essaie de soulager la douleur et la souffrance. Dans certains cas, il fait du bon travail. Il met en place des fonds de secours, il existe des organisations à but non lucratif, il offre de la nourriture et un abri, il offre des médicaments. Des conseillers s'assoient avec les gens et leur offrent un soutien émotionnel. Les organisations caritatives construisent des maisons, creusent des puits, sauvent des animaux. Ces actes de compassion aident réellement les gens. C'est vrai, mais il y a une chose que ces actes de compassion du monde ne traitent pas. Ils ne traitent pas le péché qui les cause. C'est là la grande différence. Ils ne s'attaquent pas aux causes profondes. Vous vous souvenez? J'ai dit les causes profondes. Le monde n'appelle pas les gens à se repentir. Ils ne disent pas à cet homme affamé à qui ils viennent de donner à manger. Ils ne lui expliquent pas les lois de Dieu et ce que Dieu attend de lui. Ils n'enseignent pas l'obéissance ou l'adhésion à la vérité. Ils traitent les symptômes, mais pas la maladie. Il ne va pas au cœur du problème, à savoir ce qui a conduit à la souffrance au départ. C'est une très grande différence entre la compassion, qui est merveilleuse, très belle, souvent manifestée par le monde, mais très, très différente de la compassion divine. Revenons à Jésus qui guérit et nourrit les foules. Allons à Marc 1. La grande, grande différence. Marc 1. Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été mis en prison par Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Se repentir de quoi? Se repentir de ses péchés. Et ensuite, que faire? Croire à la bonne nouvelle. Croire à l'évangile, au royaume de Dieu. Alors, bien sûr, Christ allait guérir les gens. Il ramenait les morts à la vie. Il permettait aux boiteux de marcher, aux aveugles de voir, aux muets de parler, aux sourds d'entendre, mais il leur enseignait aussi la solution ultime à la souffrance et ce qui causait la souffrance en premier lieu. La compassion divine voit la souffrance, tout comme le monde voit la souffrance. La compassion divine voit la souffrance, mais elle va plus loin en s'attaquant à la raison pour laquelle la souffrance existe. Elle s'attaque à la cause profonde du problème. Et comprendre cela, mes frères, nous aide également à voir pourquoi la compassion divine ne conduit pas toujours à un soulagement immédiat. Comme je l'ai mentionné, la compassion est liée au soulagement de la souffrance. La compassion divine ne conduit pas toujours à un soulagement immédiat. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les châtie. Pourquoi? Sois donc zélé et repens-toi. D'accord, nous avons donc la réprimande et le châtiment. Et cela est lié à la compassion? Comment cela fonctionne-t-il? Réprimander et châtier? Eh bien, mes frères, lorsque nous sommes réprimandés, lorsque nous sommes châtiés, que nous dit le verset ensuite? Soyez zélés et repentez-vous. Changez. Je veux que vous changiez. Hébreux 12 dit quelque chose de similaire. Dieu châtie le Fils qu'il aime. La compassion ressemble parfois à de la discipline. On ne peut pas toujours faire la différence. Cela ne ressemble pas à de la compassion. C'est de la discipline. Je pensais que vous soulagiez ma souffrance. Vous me causez de la souffrance. Mes frères, la guérison commence parfois par la douleur, où le processus menant à la guérison ultime implique une douleur supplémentaire. Dieu permet la souffrance, mais il le fait afin d'attirer notre attention. Il est parfois difficile pour le monde de comprendre cette idée de souffrance et comment elle mène à quelque chose de positif. Mais c'est ainsi que Dieu agit. C'est ainsi que fonctionne l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi les parents disciplinent leurs enfants. Pourquoi donneriez-vous une fessée à un enfant? Ce n'est jamais bien de faire une chose pareille. Eh bien, parce que vous voulez que l'enfant fasse ce qui est juste, ce qui est finalement le mieux pour lui. Cette souffrance momentanée mène à un bien plus grand. Romains 8. La souffrance déclenche le mécanisme d'apprentissage. La souffrance attire notre attention. Romains 8, verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent, c'est donc une reconnaissance du fait que la souffrance est inévitable. Je considère que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Nous souffrons maintenant, mais nous aurons la gloire plus tard. Souffrir maintenant, être glorifié plus tard. Cette souffrance, mes frères, a un but. Nous pouvons apprendre énormément de ce principe, en particulier lorsqu'il s'agit de faire preuve de compassion envers les autres. Lorsque nous voyons la souffrance, notre première réaction devrait bien sûr être de nous en soucier. Cela attire notre attention. Nous voyons quelqu'un souffrir et traverser une épreuve. D'accord, nous devrions nous en soucier. C'est une bonne chose à faire. Mais notre deuxième réaction, après nous être souciés de cette personne, est de nous demander, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cette personne souffre-t-elle? Et ensuite, nous devons nous demander, qu'est-ce qui aiderait vraiment cette personne que je vois souffrir? Qu'est-ce qui l'aiderait vraiment? Pas seulement maintenant, mais éternellement ou à long terme. Qu'est-ce qui aiderait vraiment cette personne? Mes frères, nous devons voir la souffrance différemment du monde. Nous devons voir la souffrance comme Dieu la voit. Nous ne voyons pas seulement des bouches affamées qui ont besoin de nourriture physique, nous devons voir qu'il y a aussi une famine spirituelle. Pas seulement la faim physique, mais aussi la faim spirituelle. Nous devons voir les deux. Nous ne voyons pas seulement le chaos et la criminalité. Nous avons l'aide nécessaire pour voir que des lois spirituelles sont enfreintes dans un monde coupé de Dieu. C'est ainsi que nous devons considérer la souffrance et, en fin de compte, la compassion. Notre mission, individuellement et en tant qu'Église, n'est pas seulement de faire des dons à des œuvres caritatives. Ce n'est pas notre mission. Notre mission est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Jean 5. Notre but, notre mission, est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. Le Père travaille, et moi aussi je travaille. » Jean 9. Restons dans Jean. Mes frères, Dieu est occupé. Dieu est occupé. Jean 9, verset 4. Christ dit, « Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Nous venons donc de voir que le Père travaille, et Christ a dit qu'il travaille. Jésus dit ici, « Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. » La nuit vient, où personne ne peut travailler. J'ai lu ce verset, frère, parce que Dieu est occupé par cette œuvre. Cette œuvre est urgente. Il y a une urgence derrière cette œuvre, l'œuvre que le Père et Christ accomplissent. Frères et sœurs, nous devons avoir un sentiment d'urgence. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup à faire, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Lorsque nous nous concentrons sur l'œuvre plutôt que sur l'ouverture de soupe populaire, lorsque nous nous concentrons sur les choses que Dieu veut que nous fassions plutôt que d'aller construire des maisons et des refuges pour les gens, ce n'est pas parce que nous nous en moquons. Ce n'est pas parce que nous nous moquons du fait que les gens ont besoin de nourriture. Ce n'est pas parce que nous nous moquons du fait que les gens ont besoin d'un logement. C'est tout le contraire. Nous nous en soucions. Nous nous en soucions vraiment. Soyons réalistes. Il existe de nombreuses soupes populaires. C'est vrai. On peut dire qu'il pourrait y en avoir davantage, mais il y en a. Il y a des gens qui construisent des maisons pour les sans-abri et les personnes dans le besoin. Cela se fait, mais mes frères, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre objectif ultime. Le monde se concentre sur le soulagement de la douleur immédiate. Dieu se concentre sur le soulagement de la douleur pour de bon, à long terme, à long terme. Dieu ne veut pas que nous soyons insensibles. Ce n'est pas ce que je dis, insensible et indifférent. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Dieu veut que nous reconnaissions et comprenions que les gens ont des problèmes. Il veut que nous le voyions. Il le voit. Il veut que nous ressentions, et il veut que nous agissions. N'oubliez pas que la compassion consiste également à agir en fonction de ses sentiments, mais nous devons agir d'une manière qui reflète son esprit, qui reflète l'esprit de Dieu, et non le nôtre. C'est cela, la compassion divine. Jusqu'où devons-nous aller, mes frères, pour montrer notre compassion et aider les gens? Jusqu'où devons-nous aller? Devons-nous faire preuve de compassion? Pour revenir à une question précédente, comment devons-nous faire preuve? J'ai demandé tout à l'heure comment faire preuve de compassion envers les membres de l'Église. Notre compassion envers les membres de l'Église devrait-elle être différente de la compassion que nous montrons à ceux qui sont dans le monde, en supposant que nous devons même montrer de la compassion à ceux qui sont dans le monde? Cette compassion envers les membres de l'Église devrait-elle être différente? Approfondissons cette question. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 10. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, c'est une façon intéressante de commencer ce verset, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. C'est un verset très puissant, en particulier dans le contexte de notre discussion d'aujourd'hui, cette compassion et le fait de la montrer à ceux qui sont dans le monde ou dans l'Église. C'est un verset très, très puissant. Tout d'abord, avez-vous remarqué comment il commence? Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, c'est énorme. Mes frères, nous devons être en mesure ou avoir l'occasion, ou les moyens de faire preuve de compassion et d'aider les autres. Nous devons être en mesure de le faire. Puisque nous en avons donc l'occasion, lorsque l'occasion se présente, c'est une condition importante. Cela commence à nous montrer que notre compassion et notre aide aux autres doivent être équilibrées. Nous devons être en mesure de le faire lorsque l'occasion se présente. Si je donne de l'argent à quelqu'un pour payer son loyer et que, parce que je lui ai donné de l'argent pour payer son loyer, je ne peux plus payer le mien, ce n'est pas bon. Qu'ai-je accompli? Je suppose qu'il va me rendre l'argent pour que je puisse payer mon loyer et que nous allons continuer à nous donner mutuellement de l'argent, à nous le rendre et à nous le donner. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le verset poursuit en disant, aidez tous les hommes. Lorsque l'occasion se présente, aidez tous les hommes. Cela signifie, mes frères, que nous devons être prêts à aider n'importe qui. Lorsque l'occasion se présente, bien sûr, nous devons être prêts à aider n'importe qui. Mais le verset poursuit en disant finalement, surtout ceux de la maison de la foi. Cela nous montre la priorité. Faire preuve de compassion et aider nos frères doit être notre première priorité. Je réponds donc à la question, aidons-nous ceux qui sont dans l'Église? Leur témoignons-nous de la compassion? Je suis sûr que vous n'êtes pas surpris d'entendre que la réponse est oui, mais nous en discutons simplement. Nous essayons de comprendre. Aider nos frères doit être notre première priorité. Cela montre que notre première attention doit aller à ceux qui font partie du corps du Christ. Pourquoi? Pourquoi donner la priorité à ceux qui font partie du corps du Christ? Eh bien, mes frères, c'est parce que c'est le corps du Christ. Nous sommes plus que de simples connaissances. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs spirituels, tous au service d'un père et d'un frère aîné en Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Ouvrez votre Bible à Romains 12. Romains 12. Qui ne viendrait pas en aide à sa famille? Romains 12. Romains chapitre 12, verset 10. Soyez bons les uns envers les autres, avec une affection fraternelle. Rappelez-vous, nous sommes des frères et sœurs spirituels, honorez-vous mutuellement. Vous savez ce que signifie « vous préférez ». Cela signifie donner la priorité. Et il est dit qu'ils sont frères et sœurs dans l'amour. Philadelphie, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous partageons les mêmes croyances. Nous avons les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes luttes. Faire preuve de compassion divine envers les membres de l'Église renforce l'unité. Cela nous aide à nous rapprocher de manière plus profonde. Luc 12 nous appelle un petit troupeau. Frères et sœurs, nous sommes petits. Nous sommes dispersés. Lorsque nous intervenons et nous aidons les uns les autres, lorsque nous souffrons et que nous soulageons cette souffrance, toutes les différentes façons dont le peuple de Dieu peut souffrir, lorsque nous intervenons et essayons d'alléger cette souffrance, cela nous rapproche. Non seulement les personnes directement concernées, celles qui souffrent, celles qui font preuve de compassion et soulagent la souffrance, mais aussi celles qui en sont témoins, qui la voient. Cela nous rapproche tous. Colossiens 3. Cela nous rappelle que, même si nous sommes dispersés, que vous soyez dans certains cas la seule personne de votre quartier, de votre église, de votre région, voire de votre pays, vous ne voyez vos frères que pendant la fête. Lorsque nous faisons preuve de compassion, comme le dit Colossiens 3, lorsque nous faisons preuve de compassion, cela nous rapproche les uns des autres. Colossiens chapitre 3, verset 12. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, nous connaissons donc l'auditoire, les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement, si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La liste que nous venons de lire, qui comprend la miséricorde, la compassion, mais aussi le fait de montrer et de mettre en pratique cette liste, ou de la montrer aux élus de Dieu, crée un lien de perfection entre nous tous. Tous ces mots impliquent une action, pardonner, faire preuve de patience, faire preuve d'humilité, accomplir des actes de bonté, accomplir des actes de miséricorde. Tous ces mots sont basés sur l'action. Alors, mes frères, nous ne pouvons pas nous contenter de dire ces choses, nous devons les accomplir. Passons au chapitre 2 de l'Épître de Jacques. Chapitre 2 de l'Épître de Jacques. Les actions parlent beaucoup plus fort que les mots. Chapitre 2 de l'Épître de Jacques. Verset 15. Jacques 2, 15. Si un frère ou une sœur sont nus. D'accord, Un frère ou une sœur. Nous venons de parler d'être des frères et sœurs spirituels, tous au service de Dieu, notre Père, notre frère aîné, Jésus-Christ. Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », ils viennent donc vers vous, ils ont un besoin, et vous leur dites, « Ah, va en paix, réchauffe-toi et rassasie-toi ». Eh bien, non, je suis venu vers vous parce que j'ai un besoin. Mais si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Dieu ne veut pas que nous nous contentions de nous apitoyer les uns sur les autres lorsque nous souffrons. Il veut que nous agissions. S'apitoyer n'est pas faire preuve de compassion. Rappelez-vous que la compassion consiste à aider à soulager ou à tenter de soulager la souffrance. Cela ne signifie pas pour autant se précipiter sans réfléchir dans une situation où nous voyons un besoin. Cela signifie simplement être prêt et disposé à aider lorsque cela est nécessaire, puis prendre les mesures nécessaires pour le faire. Il ne suffit donc pas d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui souffre dans l'Église. Nous devons agir. Mes frères, la compassion dans l'Église peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être une carte ou un message à quelqu'un qui est en deuil. Peut-être a-t-il perdu un être cher, ou bien un SMS ou un appel téléphonique à quelqu'un qui est malade et qui n'a pas pu communier avec les autres. Ce sont là des actes de compassion. Cela aide à soulager leur souffrance, à leur faire savoir que vous vous souciez d'eux. Des visites pour encourager les personnes qui traversent une épreuve. Vous pouvez leur rendre visite en personne, vous pouvez leur téléphoner, leur passer un appel vidéo. Apporter discrètement un repas ou des provisions à quelqu'un qui en a besoin. Apporter discrètement. Vous ne le criez pas sur tous les toits. Aider une mère célibataire à faire réparer sa voiture. Peut-être que vous vous y connaissez en mécanique et qu'elle a du mal à faire réparer sa voiture ou même à diagnostiquer le problème. Gardez les enfants d'un couple qui est débordé. Ils ont juste besoin d'un peu de répit. Ils souffrent. Leur relation empathie. Ils ne sortent plus autant. Ils ne sortent plus ensemble comme avant. Remarquez quelqu'un qui se replie sur lui-même et qui est plus silencieux que d'habitude. Lui tendre la main, s'assurer qu'il va bien. Rien de tout cela n'est spectaculaire. Rien de tout cela n'est spectaculaire. C'est simplement de la compassion. C'est tout, voir un besoin et aider à soulager la souffrance. Un geste comme celui-ci peut sembler insignifiant, mais il peut illuminer la journée de quelqu'un. Cela peut même être la meilleure chose qui puisse lui arriver à ce moment-là. Oh là là, quelqu'un a remarqué que j'avais des difficultés. Quelqu'un a remarqué que j'avais un problème, que j'avais un souci. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et considérez comme l'accomplissement de la loi du Christ. Cela semble très important. Portez les fardeaux les uns des autres, je le relis, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lorsque vous aidez quelqu'un à porter son fardeau, cela montre que vous accordez de la valeur et de l'importance à cette relation. Vous l'appréciez. C'est très important. Cela me rappelle ce que je disais à propos de M. Rogers et de cette personne, ce jeune garçon. Il lui a donné le sentiment d'être spécial. Mes frères, lorsque nous portons les fardeaux les uns des autres, nous nous sentons spéciaux. Nous nous sentons spéciaux. Y a-t-il un moment où il ne faut pas intervenir pour aider un frère ou une sœur en Christ ? Y a-t-il un moment où il ne faut pas intervenir pour les aider ? Eh bien, je ne dirai jamais de ne pas aider une personne. Je ne ferai pas cela. Je ne dirai pas de ne pas aider une personne, mais ce que je dirai, c'est qu'il faut les aider de la bonne manière. Vous devez intervenir et les aider de la bonne manière. La compassion de Dieu, la compassion divine, à laquelle nous aspirons, doit être exprimée avec sagesse et dans le respect de la volonté de Dieu. La compassion divine doit être exprimée avec sagesse et dans le respect de la volonté de Dieu. Cela signifie que, oui, nous sommes appelés à aider et à faire preuve de compassion, mais nous devons reconnaître quand un problème ou une difficulté que quelqu'un traverse est trop grand ou trop complexe pour qu'une seule personne ou une seule famille puisse s'en charger. Nous devons reconnaître quand le problème est tout simplement trop grand pour que nous essayions de le résoudre seuls. C'est là qu'interviennent le ministère et le gouvernement de Dieu. Nous parlons d'aider les membres de l'Église. C'est là qu'interviennent le ministère et le gouvernement de Dieu. Si un membre a un problème financier majeur, une crise familiale majeure, un fardeau à long terme, la bonne approche dans de nombreux cas est simplement d'en parler au ministère. Encouragez la personne à aller voir son pasteur. Si elle n'est pas en mesure de le faire, ou si elle en est incapable, vous pouvez peut-être, selon le problème, aller voir le pasteur en son nom. C'est une façon de l'aider. C'est une forme de compassion qui contribue à soulager la souffrance. Ce n'est pas vous ou moi qui essayons de régler le problème par nous-mêmes. Le ministère dispose de l'expérience, des ressources et d'une vision plus large pour s'assurer que l'aide apportée à la personne est appropriée. Parfois, une implication émotionnelle incontrôlée et le fait de se précipiter pour aider peuvent en réalité nuire à la personne que vous essayez d'aider. Vous ne le faites peut-être pas exprès, mais cela peut parfois blesser la personne. Cela peut favoriser une mauvaise façon de penser. Vous avez entendu parler du concept de facilitateur. Vous ne voulez pas faire cela. Cela peut favoriser une mauvaise façon de penser. Cela peut retarder la correction nécessaire. Lorsque nous intervenons, cela peut retarder la correction et mettre un pansement sur un problème qui nécessite en réalité beaucoup plus que cela. Cela peut créer une dépendance au lieu de favoriser la croissance de cette personne. L'un des dangers de la compassion, en particulier chez les personnes sincères et attentionnées comme nous, et la tentation de nous surmener. Nous intervenons pour aider la personne, et nous sommes tentés de nous surmener. Vous voyez peut-être quelqu'un en difficulté et vous vous dites, « Vous savez quoi ? Je dois régler ce problème. Je dois intervenir et régler ce problème. Je vois un problème. Nous sommes censés être compatissants, n'est-ce pas ? Je vais intervenir et essayer de régler ce problème. Mais mes frères, parfois, vous n'êtes pas celui que Dieu a placé dans la position d'intervenir. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes censé faire. Parfois, le meilleur acte de compassion consiste à prier sincèrement, à demander à Dieu de vous guider, à encourager la personne, sans l'ignorer. Mais ensuite, soumettez la situation au pasteur, au ministère. Encouragez la personne à se rendre au ministère. Soutenir ne signifie pas toujours résoudre. Soutenir une personne ne signifie pas toujours résoudre son problème. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous devons intervenir, nous tenir aux côtés d'une personne, mais sans essayer de nous immiscer dans sa situation. Nous devons faire preuve de sagesse et savoir quand agir ainsi. Nous devons nous tenir à ses côtés, sans nous immiscer dans la situation. C'est une grande différence. Il faut de la sagesse et du discernement pour y parvenir. Il faut des messages comme celui-ci, dans lesquels j'explique et aide à comprendre comment s'impliquer lorsque les gens ont besoin d'aide. Et si c'était nous qui avions besoin de compassion, Nous parlons ici de faire preuve de compassion. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes ceux qui en ont besoin? Parfois, nous nous concentrons tellement sur les autres que nous oublions que nous avons parfois besoin d'aide nous aussi. Eh bien, mes frères, si vous souffrez, ne souffrez pas en silence. Ne souffrez pas en silence. Informez-en le ministère. Tout d'abord, bien sûr, priez et parlez-en à Dieu. Bien sûr. Informez-en le ministère. Demandez de l'aide. Ne soyez pas trop fiers. Nous traversons tous des épreuves. Nous souffrons tous de différentes manières. Soyez prêts à recevoir de la compassion, pas seulement à en donner. Souvenez-vous, Galates 6 verset 2 dit de porter les fardeaux les uns des autres. C'est une voie à double sens. La compassion est une voie à double sens. C'est une attention mutuelle. Ce n'est pas une charité à sens unique. C'est une voie à double sens. C'est faire preuve de compassion envers les membres de l'Église. On pourrait en dire beaucoup plus, bien sûr, mais qu'en est-il de la compassion envers ceux avec qui Dieu ne travaille pas en ce moment? Qu'en est-il de la compassion, de l'aide apportée pour soulager la souffrance de ceux qui ne font pas partie de l'Église? Cette question tend à faire réfléchir les membres. D'accord. Dois-je aider les personnes qui ne font pas partie de l'Église? Elles ne vivent pas selon les voies de Dieu. Ils ne savent pas. Ils ont ce qu'ils méritent. Je ne sais pas si quelqu'un le dit ouvertement, mais parfois, on peut se poser la question. Est-il acceptable de ressentir et de montrer de la compassion envers ceux qui, dans le monde, ne sont pas touchés par Dieu? Même si, à ce stade, Dieu ne les a pas appelés. Est-il acceptable de les aider? Eh bien, la réponse simple, mes frères, est oui. C'est acceptable. En fait, j'irai plus loin et je dirai que, bien sûr, vous devriez les aider. Soyez prêts à aider les gens et à faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le monde. Mais comme pour tout ce qui concerne les chrétiens, nous devons faire preuve de compassion dans ce cas. Nous devons le faire en nous laissant guider par la vérité de Dieu, par l'Esprit de Dieu et par la pensée de Dieu. Mais, bien sûr, nous devons faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le monde. Bien sûr que nous le devons. Il y a de nombreuses années, M. Pack a donné un message. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il s'intitule « Les chrétiens donnent-ils aux organisations humanitaires ce que Jésus a vraiment enseigné ?» Combien d'entre vous se souviennent de ce message? Les chrétiens donnent-ils aux organisations humanitaires ce que Jésus a vraiment enseigné? C'était un excellent message. C'était un message formidable. Très utile. Et il a donné ce message à une époque où de nombreux groupes dissidents faisaient des dons à des organisations caritatives, et plus particulièrement à des organisations caritatives venant en aide aux victimes de catastrophes naturelles. Je pense que c'était à l'époque de Katrina. Il y avait beaucoup de tempêtes qui détruisaient de nombreuses maisons et la vie des gens, etc. et les groupes dissidents donnaient de l'argent à ces organisations caritatives. Comme je l'ai dit, c'était un message très utile, un message très puissant. Je vous recommande de l'écouter. Il explique comment l'Église et ses membres doivent aborder la compassion et l'aide aux personnes dans le monde. Le message de M. Pack a inspiré ce message de nombreuses façons. Mais le message abordait la manière de procéder, d'aider, de faire preuve de compassion et d'aider les personnes dans le monde. Maintenant, l'Église de Dieu, bien sûr, c'est une Église biblique, c'est l'Église que Christ a fondée. Mais nous sommes une organisation 501, c'est 3. Nous sommes une organisation à but non lucratif et une organisation 501, c'est 3, selon l'IRS, l'Internal Revenue Service. Donc, 501, c'est 3, c'est notre désignation. Mais même si nous sommes une organisation à but non lucratif et une organisation caritative, comme certains nous appellent, l'Église est définie par les Écritures. Elle n'est pas définie par les gouvernements des hommes. L'Église est définie par les Écritures. L'Église n'est pas une fiducie caritative ou une organisation caritative publique en ce sens. L'Église est définie par les Écritures. Allez à Matthieu 28, Matthieu 28. L'Église est un organisme spirituel. Christ est le chef de l'Église. Et Christ nous a donné des instructions spécifiques. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19, c'est la fin. Ici, Christ a été crucifié, ressuscité. Il donne ses dernières instructions. Verset 19, Matthieu 28, allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voyons donc que cela est présent. C'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui. Ces paroles ont été prononcées il y a 2000 ans, mais Christ a dit qu'il était avec nous, qu'il nous aidait, qu'il nous guidait en tant que chef de cette Église, qu'il nous guidait pour accomplir ces choses mêmes, et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Mes frères, c'est là la première mission. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 4. Excusez-moi, au début du chapitre, verset 1. Premier épître de Pierre, 5, 1. Je recommande aux anciens qui sont parmi vous, c'est le ministère. Moi aussi, je suis ancien. Qui parle? C'est Pierre. Il est apôtre, bien sûr, et il est le chef de l'Église. Moi aussi, je suis un ancien et un témoin des souffrances de Christ, et je participe à la gloire qui doit être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en le surveillant, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec empressement. Ne soyez pas comme des seigneurs sur l'héritage de Dieu, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et lorsque le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Une fois encore, nous voyons que cela continue aujourd'hui. C'est la deuxième mission. Enseignez à toutes les nations tout ce que Christ a enseigné, y compris l'Évangile, bien sûr, et nourrissez le troupeau. La première est la deuxième mission. Elle constitue la mission fondamentale de l'Église. Ce sont nos instructions. C'est ce que Dieu, par Christ, nous a demandé de faire. Les dîmes et les offrandes du magasin de Dieu sont destinées uniquement à l'accomplissement de ces deux missions, directement ou indirectement. C'est à cela que servent les dîmes et les offrandes du magasin de Dieu. Ces fonds ne sont pas destinés à être dépensés pour des solutions humaines aux problèmes de l'humanité. Encore une fois, c'était un excellent sermon. Je vous encourage à revenir en arrière et à écouter le sermon de M. Pack sur ce sujet. Il est très, très utile. Son argument était que nous ne sommes pas comme les groupes dissidents, qui s'égaraient. Ils oubliaient le but, les premières et deuxièmes missions, ce que Dieu a demandé à son Église de faire. Oui. Nous sommes une organisation 501, c'est 3, oui, c'est l'IRS, et nous devons bien sûr agir de manière décente et dans le respect des règles. Nous devons bien sûr agir dans le respect de la loi. Mais l'Église est un organisme spirituel. Nous avons un objectif spirituel, et cet objectif est le premier et le deuxième commandement. L'une des choses que M. Pack n'a jamais dit dans ce message, aussi puissant fut-il, c'est qu'il ne fallait pas aider les gens dans le monde. Il n'a jamais dit cela. J'ai même dû me rendre compte que, oh là là, d'accord, attendez une minute. Le message était résumé dans le titre « L'Église donne-t-elle aux organisations humanitaires ?» Il s'agissait d'aider le peuple de Dieu à comprendre comment nous devons nous impliquer dans ce domaine particulier. Mais il n'a jamais dit de ne pas aider les gens. Il a simplement mis en garde sur la manière dont nous devons aider ceux qui, dans ce cas, sont en dehors de l'Église. Mais souvenez-vous que le verset dit d'aider tous les hommes, en particulier ceux de la maison de la foi. Mais il dit d'aider tous les hommes, lorsque vous en avez l'occasion, ne l'oubliez pas. Il a donc dit qu'il était bon d'aider ceux qui sont en dehors de l'Église. Aimez votre prochain comme vous-même. Mais comme pour tout, toutes choses doivent être faites avec prudence et sagesse. Nous devons comprendre que tout don émotionnel, tout don basé sur l'émotion, n'est pas un don pieux. Nous ne devons pas essayer de répondre à tous les besoins. Toutes les situations ne nécessitent pas notre implication directe. Les problèmes de ce monde sont trop importants. Cela ne signifie pas que nous devons devenir froids, indifférents et insensibles. Ce n'est pas ce que cela signifie. Mais cela signifie que notre compassion doit toujours s'exercer dans certaines limites. C'est en comprenant qu'il y a une limite à notre rôle et qu'il est dangereux d'encourager les péchés et les choix des autres que nous aidons le mieux les gens et que nous faisons preuve de la plus grande compassion. Nous pouvons encourager les gens. Si un mendiant, tenant la bouteille de whisky classique dans un sac en papier, s'approche de moi et que je lui donne de l'argent, il y a de fortes chances que j'encourage son péché. Je ne sais pas ce qui le trahit, si c'est la bouteille de whisky, l'odeur d'alcool dans son haleine ou le fait qu'il titube et mendie de l'argent. Eh bien, je dois faire preuve de compassion, je dois aider à soulager sa souffrance en lui achetant plus d'alcool. Mais, mes frères, ce n'est pas toujours facile à dire. D'accord. Je ne donnerai jamais d'argent à un mendiant, à un ivrogne. Je ne ferai jamais cela. Mais, mes frères, ce n'est pas toujours facile à déterminer. Parfois, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Et cette femme au bord de la route qui tient une pancarte disant qu'elle a besoin d'argent pour nourrir ses enfants, cela peut être un peu plus difficile à discerner. Et croyez-moi, les escrocs le savent. Les escrocs se disent, attendez une minute. Au lieu de rester ici avec une bouteille d'alcool et de demander de l'argent, pourquoi ne pas utiliser et influencer cette personne pour qu'elle se démarque et mendie de l'argent pour ses enfants? Nous avons tous entendu parler de ces escroqueries, nous les avons vues. Nous savons qu'elles existent. Nous savons que les gens en sont victimes. Donner aux pauvres, même lorsque leurs besoins sont sincères, nous devons nous rendre à l'évidence, mes frères. Nous pourrions bien jeter notre argent par les fenêtres. Oui, cela fait du bien sur le moment. Oui, nous donnons. Et je ne dis pas de ne pas le faire, mais reconnaissez que dans de nombreux cas, vous jetez votre argent par les fenêtres. Je veux dire, si c'est ce que vous choisissez de faire avec votre argent, c'est votre choix. Mais au moins, reconnaissez la futilité de cette démarche lorsqu'il s'agit de résoudre réellement le problème de la personne, de l'aider à résoudre son problème. Et ce ne sont pas seulement les mendiants qui demandent de l'aide. C'est plus vaste que cela. Élargissons notre perspective. Prenons cela plus au sérieux. Rendons cela réel. Rappelez-vous, nous parlons d'aider tous les hommes. Il ne s'agit pas seulement des mendiants. Parfois, il s'agit de membres de la famille. Parfois, il s'agit d'amis et de connaissances, de personnes qui ne font pas partie de l'Église. Cela peut être un collègue de travail. Mes frères, nous devons être très sages et prudents, car parfois les gens profitent de notre gentillesse, pas toujours de manière malveillante ou méchante, Mais il arrive qu'ils nous manipulent. Les gens ont besoin d'aide. Ils vont venir chercher cette aide. Et pourquoi n'irait-il pas vers quelqu'un qui est très gentil et généreux? Nous devons être très conscients et réfléchir à la question de savoir si notre compassion aidera ou nuira à la personne à long terme. Nous devons y réfléchir. Mes frères, je vous le dis, si vous voulez investir vos finances dans quelque chose qui n'est pas futile, soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Nos efforts ne sont pas vains. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Il n'y a pas de plus grande compassion que d'aider le monde à entendre la vérité. Allez à Matthieu 9. Il n'y a pas de plus grande compassion, d'allègement de la souffrance, que d'aider le monde à entendre la vérité. Matthieu chapitre 9, verset 37. Vous vous souvenez que j'ai dit que le Père et Christ travaillent? Que font-ils? Entre autres choses, Matthieu 9, 37. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mes frères, il y a beaucoup de travail à faire. Les besoins sont énormes dans ce monde. La chose la plus compatissante que vous puissiez faire pour le monde est de soutenir cette œuvre. C'est la chose la plus compatissante que vous puissiez faire. Je ne dis pas que c'est la seule façon d'aider les gens, mais c'est la chose la plus compatissante que vous puissiez faire. Vous pouvez soutenir financièrement ce travail par vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez prier pour l'œuvre de Dieu. Demandez à Dieu de guider ses dirigeants. C'est une forme de compassion et d'aide pour soulager la souffrance. Vous pouvez montrer votre compassion de manière concrète en suivant l'exemple de Dieu, en vivant selon sa voie, en restant fidèle, en faisant votre part. Les gens dans le monde voient cela. Nous pouvons faire preuve de compassion envers ceux qui ne font pas partie de l'Église en leur montrant notre exemple, en étant une lumière, en leur montrant que suivre la voie de Dieu mène à la prospérité. C'est ainsi que nous pouvons finalement montrer aux gens comment ils peuvent se libérer de la souffrance en vivant selon la voie de Dieu. C'est ainsi que nous faisons preuve de compassion envers ceux qui sont dans le monde. Nous vivons selon la voie de Dieu. Nous traversons souvent les mêmes épreuves, mais nous choisissons néanmoins de vivre selon la voie de Dieu. Nous ne nous concentrons pas sur un soulagement temporaire. Nous nous concentrons sur le long terme, sur la durée. Trop d'implication. Mes frères, lorsque nous nous impliquons trop dans les souffrances du monde, cela crée une fatigue émotionnelle, une énergie mal dirigée. Nous nous concentrons tellement sur la tentative de réparer les choses dans le monde que nous tombons dans la confusion spirituelle. Gardez cela à l'esprit. Dieu permet au monde de souffrir. Il voit leur douleur. Il voit leur souffrance. Dieu permet au monde de souffrir. Il le fait souvent pour enseigner des leçons et préparer les cœurs au changement, pour briser le sol dur et préparer les cœurs au changement. Nous ne voulons pas interférer négativement dans ce processus. Nous voulons montrer les fruits d'une vie selon la voie de Dieu. Nous voulons aider, mes frères, ceux qui sont dans le monde et les uns les autres à se préparer pour le royaume de Dieu. Nos ressources sont limitées, toutes nos ressources, qu'il s'agisse d'argent ou de temps. Nos ressources sont limitées. Nous devons être très prudents dans la manière dont nous investissons notre argent et notre temps. Une compassion sans limite peut devenir une distraction. Les gens en profitent. Ils n'ont pas toujours nos intérêts à cœur. Nous devons garder cela à l'esprit. Nous ne voulons pas être naïfs. Faites preuve de discernement lorsque les gens vous demandent de l'aide. Sachez quand dire oui et quand dire non. Dans certains cas, dire non est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour cette personne dans cette situation. Les aider pourrait en fait nuire à l'œuvre de Dieu, Et malheur à quiconque s'oppose à l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas faire cela. J'ai beaucoup parlé des finances, mais cela va au-delà des finances. Il s'agit de notre temps. Donner de notre temps. Cela peut inclure l'utilisation de nos compétences et de nos talents pour aider à soulager la souffrance des autres. Toutes sortes de choses. Devrions-nous donc faire preuve de compassion envers les non-convertis? Bien sûr que oui. Bien sûr que nous devons faire preuve de compassion. Cela peut se traduire par quelque chose comme partager un repas avec une mère célibataire du quartier. Vous avez de la nourriture en trop et vous voulez la partager. Vous savez qu'elle a des difficultés financières. C'est le cas actuellement. Tout à fait. On en entend beaucoup parler dans les médias. Les gens souffrent, n'ont pas beaucoup d'argent. Vous pouvez partager un repas avec quelqu'un de votre quartier. Encouragez un collègue qui traverse une épreuve de santé. C'est tout à fait acceptable. Donnez votre vieille tondeuse à gazon à un couple âgé dont la tondeuse est cassée, vous en avez une nouvelle et vous voulez leur donner l'ancienne. Donnez des objets à des associations caritatives, des vêtements dont vous n'avez plus besoin, des choses que vous possédez. Vous pouvez d'abord demander à quelqu'un de votre église si quelqu'un en a besoin, en particulier parmi les membres de la communauté chrétienne. Il n'y a rien de mal à donner ces objets. Ce sont des actions qui peuvent avoir un impact considérable. Et parfois, mes frères, il suffit de ne rien faire, de ne pas s'immiscer, de ne pas s'impliquer. Quoi que vous fassiez, faites-le dans la prière et avec équilibre. Si le besoin est trop complexe, si la situation n'est pas claire pour vous, qu'il s'agisse d'aider quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, prenez du recul, priez pour connaître la volonté de Dieu, demandez à Dieu de vous aider à savoir comment procéder dans cette situation. Et reconnaissez que plus vous concentrez votre temps et vos finances, plus vous concentrez votre compassion, plus vous accomplissez l'œuvre de Dieu. J'ai imaginé quelque chose que vous pouvez emporter avec vous et qui vous aidera à évaluer vos motivations ou vos actions, ce que devraient être vos motivations ou vos actions lorsqu'il s'agit de faire preuve de compassion envers les membres de l'Église et les personnes extérieures à celle-ci. J'ai créé une liste de contrôle, une liste simple qui comporte 4 questions. Je vais vous la présenter ici. Elle vous aidera à savoir comment appliquer votre compassion avec sagesse. Lorsque nous sommes confrontés à une situation où nous devons faire preuve de compassion, cet outil peut nous aider à savoir comment procéder. Encore une fois, cela peut s'appliquer à quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Mais nous comprenons, bien sûr, que les membres de la famille de la foi sont la priorité. La première question de la liste de contrôle est la suivante. Ma décision d'aider est-elle fondée sur la vérité, de Dieu? Ma décision d'aider cette personne est-elle fondée sur la vérité liée à ce premier point? Mes actions reflètent-elles la parole de Dieu, sa loi et sa façon de penser? Ou sont-elles purement basées sur l'émotion? La compassion sans vérité peut être mal avisée. Le premier point est le suivant, ma décision d'aider est-elle fondée sur la vérité? Le deuxième point de cette liste de contrôle est le suivant, est-ce utile sur le plan spirituel, maintenant ou à long terme? Je le répète, est-ce utile sur le plan spirituel, maintenant ou à long terme? En lien avec le point numéro 2, cela encouragera-t-il la repentance? La croissance ou l'unité? Mon implication encouragera-t-elle la repentance, la croissance et l'unité? Ou pourrait-elle involontairement favoriser le péché, la confusion ou la dépendance? La compassion de Dieu n'est pas toujours un réconfort immédiat. Elle implique parfois une correction. Donc, encore une fois, numéro 2, est-ce utile sur le plan spirituel? maintenant ou à long terme? Numéro 3. Est-ce mon rôle, ou devrais-je impliquer le ministère? Est-ce mon rôle, ou devrais-je impliquer le ministère? En lien avec le numéro 3, posons la question autrement. Suis-je la bonne personne pour intervenir et aider dans cette situation? Ou serait-il préférable que quelqu'un d'autre, doté d'une autorité, d'une sagesse et de ressources que je n'ai pas, s'en charge? Nous pensons à l'aide apportée par la troisième dîme. C'est le but de l'Église, de s'occuper de ces questions. Les frères interviennent souvent et donnent de l'argent, ce qui est merveilleux, gentil et généreux, mais ce n'est pas toujours la meilleure façon de procéder. Je vais donc répéter le point numéro 3. Est-ce mon rôle, ou devrais-je impliquer le ministère? Et le numéro 4. Est-ce que je néglige la plus grande compassion, qui est de soutenir l'œuvre? En faisant preuve de compassion envers les autres, est-ce que je néglige la plus grande compassion, qui est de soutenir l'œuvre? En d'autres termes, est-ce que je consacre des ressources à des solutions temporaires tout en négligeant la solution éternelle? Est-ce que mon temps, mes efforts et mon argent contribuent vraiment à changer des vies pour toujours? Mes frères, seule la vérité peut mettre fin à la souffrance pour de bon. La plus grande compassion consiste à aider les gens à connaître la vérité. Alors, mes frères, gardez cette liste à l'esprit. Premièrement, ma décision d'aider est-elle fondée sur la vérité? Deuxièmement, est-ce utile sur le plan spirituel, maintenant ou à long terme? Troisièmement, est-ce mon rôle, ou devrais-je impliquer le ministère? Et quatrièmement, est-ce que je néglige la plus grande compassion, qui consiste à soutenir l'œuvre de Dieu? Utilisez cette liste de contrôle lorsque vous êtes ému ou motivé à vous lancer et à aider quelqu'un. Elle vous permettra de rester concentré sur votre compassion. Elle vous aidera à la cibler et à la rendre plus efficace. Pour conclure, nous jetons un regard rétrospectif. Depuis le commencement, le monde est bien sûr rempli de souffrance. Nous voyons la souffrance partout. Dieu a, si nous la voyons, mes frères, Dieu la voit bien sûr aussi. Dieu n'a jamais cessé de voir la souffrance et, par conséquent, de ressentir de la compassion pour sa création. Il voit tout ce qui se passe. Dieu n'est pas indifférent et n'ignore pas la souffrance du monde. Il s'en soucie profondément. Nous avons vu qu'il s'en soucie dans ses entrailles, comme un fœtus dans l'utérus. Dieu s'en soucie profondément. Il ne se contente pas de ressentir, il agit également en fonction de cette sollicitude. Il est de la compassion. Et, bien sûr, mes frères, il veut que nous fassions de même. Les actions de Dieu visent un seul objectif, un avenir sans souffrance. Passons à un autre verset, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Dieu veut un monde sans souffrance. Apocalypse 21, verset 4. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni de deuil, ni de cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mes frères, tel est notre avenir. Tel est l'avenir de toute l'humanité. Dieu est compatissant. Il veut mettre fin à la souffrance. C'est l'avenir. Et notre travail consiste à refléter la compassion de Dieu, cette compassion divine, dès maintenant. Pas seulement par nos paroles. Oui, nous devons ressentir, mais nous devons aussi agir. La compassion se manifeste dans la façon dont nous traitons nos frères, dont nous réagissons à la souffrance de ceux qui nous entourent, dont nous soutenons l'œuvre, dont nous menons notre vie. Dieu veut mettre fin à la souffrance de façon permanente, pas seulement pour quelques-uns, mais pour tous ceux qui sont prêts à lui obéir. Oui, Nous sommes dans une période où la compassion est dans l'esprit des gens. Bien sûr, elle est aussi dans notre esprit, même au-delà de cette période. Rappelons-nous la compassion divine et à quoi elle ressemble. Une compassion qui reflète l'esprit de Dieu. Une compassion qui change les vies pour le mieux.